Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, ils sont deux ce matin à l'antenne de Radio Classique. Dimitri Pavlenko qui aura la parole dans quelques minutes, mais d'abord Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Alors, il y a un gros dossier ce matin dans les spécialistes, c'est celui des réactions très nombreuses dans le monde arabe aux mesures annoncées par Emmanuel Macron pour combattre l'islamisme radical. Nous parlerons de l'aspect économique des choses avec Dimitri dans un instant, mais car un appel au boycott des produits français a été lancé dans certains pays du Golfe. Pas partout, hein, précisons-le. Mais commençons d'abord par l'aspect purement diplomatique de cette affaire, Emmanuel, avec les nouvelles attaques lancées ce week-end par le président turc Erdogan contre M. Macron.
Alors, je ne sais pas, Bernard, si ça s'appelle encore de la diplomatie, car les propos de Recep Tayyip Erdogan sont d'une violence inouïe. On a rarement vu le chef d'un grand pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, s'interroger tout haut sur la santé mentale de son homologue français. Eh bien, c'est ce qu'a fait M. Erdogan à deux reprises ces dernières 48 heures. D'abord, samedi, lors d'un meeting, en disant qu'Emmanuel Macron avait besoin de se faire soigner, vu la manière dont il traite les millions de musulmans qui vivent en France. Et hier, en Anatolie, devant les caméras de télévision, le président turc a remis une pièce dans la machine à insultes en déclarant que M. Macron est obsédé par M. Erdogan, qui parle de lui la troisième personne, et qu'il a vraiment besoin, je cite, de subir des examens mentaux. Alors, l'attaque répétée hier fait suite à la très vive réaction d'Elysée, qui a rappelé son ambassadeur en Turquie, décision très rare, et qui a qualifié les propos du président turc d'inacceptables, un terme repris d'ailleurs par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui dénonce une spirale dangereuse. Cela fait plusieurs mois que le torchon brûle entre Paris et Ankara, depuis que le président français a jugé l'OTAN en état de mort cérébrale et que le président turc a estimé que c'était plutôt le locataire de l'Élysée qui était en état de mort cérébrale. Et puis ces dernières semaines, souvenez-vous, il y a eu l'envoi par Paris de frégates pour répondre aux manœuvres d'exploration pétrolière de la Turquie en Méditerranée orientale, dans des eaux revendiquées par la Grèce, sans parler des autres sujets de discorde, la Libye, le Haut-Karabakh, bref, des relations franco-turques qui sont, comment dire, en état de forte tension cérébrale.
Voire de mort cérébrale, pourquoi pas. Mais finalement, Emmanuel Faux, pourquoi M. Erdogan prend-il ainsi Emmanuel Macron pour cible principale? Et au fond, est-ce que c'est vraiment lui qui est visé?
Ben vous posez la bonne question, Bernard, parce que c'est toute la subtilité de cette affaire. Le président turc s'en prend au président d'un grand pays, la France, qui compte la plus forte communauté musulmane d'Europe, mais à travers lui, c'est bien aux musulmans qu'il s'adresse, et notamment pour des raisons de politique intérieure. Car il y a sur le sol français de très nombreux immigrés turcs qui ont encore le droit de voter pour les élections en Turquie. Oui. Or, l'AKP, le parti islamo-conservateur d'Erdogan au pouvoir, a perdu pas mal de plumes ces dernières années, avec notamment la chute de la mairie d'Istanbul passée à l'opposition. M. Erdogan prend donc prétexte de la récente loi annoncée contre le séparatisme et du discours mercredi dernier d'Emmanuel Macron à la Sorbonne à la mémoire de Samuel Paty sur le droit de caricaturer et la liberté pour un professeur de montrer, et il en tire argument pour attiser les braises, pour dénoncer une France des mécréants. Ce face-à-face qu'il installe avec le président français sert en fait son ambition d'incarner le leadership de l'islam sunnite, y compris en Europe. Donc Erdogan, si vous voulez, se voit en sultan, et la stratégie du président turc trouve un écho dans le monde arabe, puisqu'il a réussi déjà à allumer la mèche au Qatar ou au Koweït en suscitant des appels au boycott de la France ou en provoquant des manifestations anti-françaises du Hamas à Gaza et même à Jaffa.
Voilà pour l'aspect, disons, diplomatique au sens large des choses. Voyons l'aspect économique. D'ailleurs, vous avez amorcé la pompe, Emmanuel Faux, en parlant du Qatar et du Koweït, avec des appels au boycott. Boycott, bien entendu, des produits français ou voire des déplacements en France, à supposer qu'on puisse encore se déplacer un jour. Dimitri Pavlenko, ça c'est pas évident. Est-ce que ces appels au boycott doivent être tenus pour importants? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper ou est-ce que c'est extrêmement minoritaire et ça ne peut pas avoir d'incidence sur nos flux économiques extérieurs?
Écoutez, d'abord, je dirais que c'est pas anodin quand même quand on appelle à un boycott des produits français en en général, hein, quel que soit le secteur.
Les Américains l'ont souvent fait, hein, souvenez-vous, parce que le gavage des oies, parce que ce genre de choses, ils disaient il faut plus acheter français. Et à l'époque aussi du discours de M. Villepin à l'ONU,
oui.
Les Américains, ils n'achetaient plus rien de français. Voilà, les Freedom Fries.
Il y avait ça, oui, les Américains, ils ont vécu aussi, ils ont été cibles de boycott en Amérique du Sud aussi. Les Israéliens l'ont beaucoup connu aussi.
Oui, les oranges de Jaffa.
Voilà, exactement, du fait de la colonisation dans les territoires palestiniens, citons aussi l'Afrique du Sud. Enfin bref, les boycotts visant comme ça les produits d'un pays, ça n'est pas nouveau, c'est arrivé plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est vraiment grave? Je dirais que ça dépend, en fait, ça dépend, puisque si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, il circule notamment des listes, hein, vous voyez tous les logos des marques françaises pour lesquelles, en fait, ceux qui appellent au boycott voudraient que les gens cessent de les acheter.
Oui.
Alors, vous avez beaucoup de produits de grande consommation avec les logos de toutes les marques que l'on connaît tous. Je pense à Danone, par exemple, avec toutes les marques de fromage, par exemple, ou de produits laitiers. L'eau également, l'automobile aussi, les pneus Michelin, le carburant Total. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le monde arabe, notamment dans le Golfe, qui ignoraient
qui vont plus faire leur plein chez Total.
Voilà, qui découvrent en fait que certaines enseignes sont françaises.
Ah oui.
En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Alors ceux-là, les produits de grande consommation, si vous voulez, il peut y avoir des tensions. En revanche, pour plein d'autres secteurs, vous pensez à des groupes dans les services informatiques, Atos, Capgemini. Là, c'est du B2B, business to business, et parfois directement avec les États. Donc là, pour le coup, ces contrats-là, très peu de chances qu'ils soient remis en question, parce que ces appels au boycott émanent, Emmanuel l'a dit, non pas des États, proprement dit, mais de réseaux militants dans ces pays-là. Et on voit que d'ailleurs, ce sont dans les pays dont les États sont les plus fragiles que ces appels trouvent le plus d'écho, la Jordanie par exemple.
Alors, il faut quand même rappeler, Dimitri Pavlenko, que dans le passé, il y a eu des boycotts qui ont très très bien marché, des boycotts de produits français.
Oui.
Alors pas pour des raisons idéologiques, islamiques, etc. Parlons par exemple de Danone au Maroc.
Oui. Alors oui, c'était il y a 2 ans, mais c'était dans le cadre d'un mouvement...
contre la vie chère.
D'un mouvement populaire contre la vie chère. Et effectivement, un appel avait jailli sur Facebook qui désignait Danone comme profitant en fait de la vie chère. Danone avait la plus grande usine d'eau, aussi étant une très grosse part de marché sur certains produits laitiers. Et donc Danone a été accusé de vendre trop cher, appel au boycott. Ils n'ont pas pris ça très au sérieux au départ. Et les autorités marocaines ont cru bien faire en disant « Mais vous savez, c'est pas très bien de cibler une marque française, ça nous fait de la mauvaise publicité à l'international. » Oui, sauf que les Marocains ont fortement réagi et les ventes de Danone se sont effondrées en un trimestre de près de 50%. Ça a coûté cher à Danone. Son PDG a même dû se rendre sur place, de grandes opérations de communication pour tenter de redresser la situation, lancement de nouveaux produits à bas prix, etc. Donc un appel au boycott, ça peut être très dangereux. Mais quand c'est ciblé, si vous voulez, comme ça, pour des raisons économiques, ça fonctionne. Quand ce sont pour des raisons extra-économiques, des raisons politiques, généralement, ça ne fonctionne pas. Pascal Péry, ce matin, dans La Croix, résume bien les choses. Il dit le boycott, c'est l'arme du faible, effectivement, et ça ne marche pas très très bien. Ce sont des sanctions économiques que l'on aimerait puissantes, mais qui émanent d'individus. Et vous savez, les habitudes de consommation sont puissantes. Et reste à voir, on ne va pas préjuger de la suite. Il y a un risque, effectivement, comme je vous le disais, surtout pour les produits de grande consommation, mais pour la grande majorité de l'industrie française qui exporte à l'international. Je veux dire, aucun État va arrêter d'acheter des Airbus. Bon, même c'est vrai qu'il y a le contexte de pandémie qui ne favorise pas les ventes d'avions, ça c'est clair.
Merci beaucoup Dimitri Pavlenko et Emmanuel Faux, les deux spécialistes de ce lundi matin qui, si j'ai bien compris le planning de ceux qui travaillent cette semaine, devraient revenir presque tous les jours. Donc à demain, Dimitri, sans faute. Il est 7h48 exactement. Dans 2 minutes, la reine d'Angleterre et les Beatles font leur entrée en studio. Le maître de cérémonie du journal imprévisible toute cette semaine.